Pain d'espérance. Rencontre avec ceux qui se lèvent pour suivre l'appel du pape en cette année jubilaire.
Anne Garda, vous êtes, on peut dire, théologienne. Vous venez de faire un master sur le livre de Jérémie. Et quand je vous ai rencontrée, Anne, vous m'avez parlé du fait que Jérémie a eu des paroles d'espérance. Et je me suis dit, tiens, pour l'émission Pèlerin d'espérance, ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce que le livre de Jérémie peut nous donner comme lumière aujourd'hui pour traverser ce jubilé de l'espérance et traverser cette époque qui est, ma foi, plutôt complexe. Bonjour Anne.
Bonjour Hélène.
Donc Jérémie, vous m'avez dit que c'est un prophète déjà. Il a vécu dans quel siècle ?
Le prophète Jérémie a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans une période assez compliquée également, et dans un contexte géopolitique très particulier. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est coincé, j'allais dire, entre plusieurs empires et qui exerce des pressions sur lui. Et en plus, le territoire du peuple d'Israël est un lieu de passage aussi pour ces empires qui se font la guerre. Voilà. Au 7e siècle, on assiste à l'effondrement d'un empire très florissant et très important, qui est l'empire assyrien, et à l'avènement, évidemment, d'un autre empire très important aussi, qui est l'empire babylonien. Et par ailleurs, tout au sud, il y a l'empire égyptien qui s'allie avec l'un ou l'autre au gré des événements.
Sacré échiquier, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Hein. Et donc, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, mais concernant Jérémie, il s'agit du royaume de Juda, essaie de sauver sa peau, hein, on va le dire comme ça, en s'alliant tantôt avec l'une des puissances, tantôt avec l'autre, en essayant de discerner ce qui va être le mieux pour lui.
Jérémie est issu du royaume de Juda, donc ?
Tout à fait.
D'accord.
Oui, oui.
Hors antenne, vous m'avez dit qu'il dialoguait avec les rois. Avec quel roi il dialoguait ? Le roi de Juda ou les rois des autres empires ?
Jérémie fait partie d'une classe sociale assez formée intellectuellement. Vraisemblablement, il savait lire et sûrement écrire, ce qui était quand même très rare, hein, ce qui concernait 5 à 10 % de la population. Et donc, de ce fait, et de par sa formation aussi, il était capable d'être l'interlocuteur des puissants du royaume, des fonctionnaires royaux et même du roi.
C'est-à-dire que quand vous parlez du roi, c'est le roi de Juda ?
Alors c'est le roi de Juda. Oui,
d'accord.
Oui, oui.
Hein. Et ce qu'il a à dire n'est pas agréable du tout à entendre.
Et pas agréable du tout à entendre. Mais il pouvait aussi, on le voit par exemple au chapitre 29, être en lien avec des fonctionnaires des autres empires et notamment de l'empire babylonien.
Jérémie a quand même reçu une mission du Seigneur. Vous m'avez dit qu'il a même eu une vocation très structurée. Et on le trouve au début du livre. Vous pouvez nous en lire quelques versets ?
Oui, je vous lis donc quelques versets au chapitre 1, versets 4 à 5. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. C'est deux versets qui sont au tout début du livre et qui donnent un peu le « là », hein, c'est-à-dire que non seulement Jérémie est missionné par Yahvé, mais il est missionné, j'allais dire, dès sa conception.
Et pour les nations, c'est étonnant parce qu'il n'est pas fait prophète pour...
Ouais.
Alors ça, c'est étonnant parce que quand vous me l'avez lu, je me suis dit « tiens ». Parce qu'au moment où je vous rencontre, on est en plein milieu de la fête de l'Épiphanie, on vient de la voir. C'est quand même la manifestation de Dieu pour les nations. Et là, Jérémie, à la fois, et vous me dites qu'il parlait avec les puissants de Juda, mais au-delà, et dans ce que vous me rapportez, c'est pour les nations.
Oui, alors c'est peut-être quelque chose qui a été rajouté tardivement quand même.
Oui, hein. On sent donc, la chercheuse.
donc je m'aventurerais peut-être pas pour dire que c'est quelque chose qui appartient voilà, aux oracles historiques de Jérémie. Mais c'est sûr que pour des rédacteurs plus tardifs, ça avait une importance de dire que c'était un prophète pour les nations.
Jérémie reçoit cette vocation. Le fait de dire ce qu'il reçoit, parce que le Seigneur lui demande de parler, et ce qu'il a à dire n'est pas agréable du tout.
Non, ce qu'il a à dire n'est pas très agréable parce que c'est que ça ne va pas bien. Voilà. Et que il va y avoir la catastrophe si le peuple ne se convertit pas, si le roi ne fait pas des choix appropriés, donc des choix vraiment politiques, là. Hein. C'est-à-dire que Jérémie, dans le livre, a une ligne géopolitique qui est d'être avec les Babyloniens, de se rendre, j'allais dire, ou de se mettre du côté des Babyloniens. Voilà. Or, il y a à cette époque-là, au sein du royaume de Juda et au sein de l'élite politique, plusieurs autres courants. C'est-à-dire qu'il y a des courants pro-égyptiens, par exemple. Hein. Et il y a des courants aussi nationalistes. C'est-à-dire que...
On s'associe à personne.
Voilà. Et on reste notre nation intégrée, autonome, sans avoir besoin de personne, ou en prenant les armes, etc. C'est une période très perturbée et très compliquée, hein, où il y a tout d'un coup des assassinats, des... parce qu'on sent quand même une pression au niveau des empires périphériques. Hein.
Et vous m'avez dit que dans le livre de Jérémie, on distingue qui sont les vrais et les faux prophètes. Enfin, Jérémie, ce qu'il avait à dire n'était pas nécessairement bien accueilli. Il a été même persécuté. Et il y a d'autres personnes qui vont dire autre chose, qui va peut-être plus aller dans le sens du poil de ce que les gens ont envie d'entendre.
Oui, alors tout à fait. Alors, les chapitres concernant les vrais et les faux prophètes, bon, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément étudié dans le détail. Maintenant, faux et vrais prophètes, quand vous lisez les chapitres qui se rapportent à ce thème-là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a aucun critère pour savoir qu'il y a un faux ou un vrai prophète. Donc, on voit bien quand même que, de la même façon que beaucoup de rédactions du livre, enfin de passages du livre et de narrations du livre, on voit bien que c'est quand même une construction après coup.
Tout comme aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé avec le gouvernement de Vichy et on dit mais c'était une ânerie. Mais quand les gens étaient au milieu de ce problème, de ces soubresauts d'histoire, c'était quand même compliqué de savoir comment agir et qu'est-ce qui était juste. Je me remets dans un contexte de guerre. Après coup, on dit ceux-là, ils ont pris de bons choix, les autres non. Mais on aurait fait quoi nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on avait comme lumière pour faire le choix?
Alors oui, alors je sais pas si j'aurais fait le parallèle avec,
non,
avec
peut-être pas.
Votre exemple. En tous les cas, concernant le livre de Jérémie, on voit bien en effet que c'est des choix géopolitiques. Alors bon, est-ce qu'il y avait une inspiration? C'est très difficile à dire. En tous les cas, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que les différents rédacteurs du livre qui ont relu les événements, les ont relus de cette façon-là. C'est-à-dire comme, bah, finalement, l'option géopolitique de Jérémie, c'était la bonne.
D'accord.
Voilà. Hein. Je pense que c'était très difficile dans un contexte qui était celui de Juda avant la catastrophe de savoir quelle était l'option la meilleure en fait. Hein. Alors peut-être quand même qu'on peut dire que les rois de Juda à cette époque-là ont fait des choix un peu imprudents. Voilà. En tous les cas, ça a été relu après comme Jérémie avait raison et il avait la bonne option.
Et Jérémie a eu du mal à porter cette mission, même qu'il en a voulu à un moment maudire le jour de sa naissance. Et maudire le jour de sa naissance, c'est pas rien. Surtout quand on voit qu'au moment de la vocation, on dit qu'il a été conçu dès le sein de sa mère pour porter une mission et tout ça. Et là, il maudit cela parce que ça a été dur pour lui d'être...
Alors, c'est vrai que le livre de Jérémie, c'est un livre sur la parole. Hein, la parole qu'on doit écouter, enfin que le peuple et les autorités royales ont à écouter, mais aussi la parole qui doit être transmise par le prophète. Jérémie, il a un rôle extrêmement ingrat de transmettre une parole que personne ne veut entendre. Alors, je vous lis. Hein, et par moments, voilà, ça craque et c'est trop lourd pour lui. Voici ce qu'il dit, chapitre 20 au verset 14. « Maudit le jour où je fus enfanté. » Le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni. Maudit l'homme qui annonça à mon père un fils aîné, et il le combla de joie, que cet homme devienne pareil aux villes que de façon irrévocable le Seigneur a renversées. Alors c'est très fort, hein, c'est des paroles qui sont quand même presque blasphématoires, hein, on pourrait dire. Maudire sa mère à cette époque-là, c'était sûrement passible de la mort. Hein, mais la Bible nous les transmet. Et on peut en faire quelque chose, en effet. Voilà.
Et on va terminer avec, on a quelques minutes encore, Anne Garda. Il a eu des paroles de consolation, Jérémie. Et vous m'aviez expliqué que c'était par rapport aux Hébreux du royaume du Nord qui sont venus se réfugier dans le royaume du Sud, enfin dans le royaume de Juda. Et Jérémie a eu des paroles de consolation, porteuses d'espérance. C'est dans les chapitres 31-34, il me semble, m'avait dit. Hein.
Oui, alors au milieu du livre de Jérémie, il y a un ensemble de chapitres qui est assez connu, qui s'appelle le livret de consolation, dans lequel on trouve notamment le passage sur la Nouvelle Alliance que les chrétiens connaissent bien, parce que classiquement, on dit que ça préfigure le christianisme, en fait. Bon, ce qui serait peut-être à nuancer, hein, quand même. Mais en effet, il y a ce très beau passage, donc au chapitre 31, versets 31 à 34, où, au cœur de la tourmente, Jérémie annonce au peuple d'Israël que bientôt il y aura une nouvelle alliance et que cette nouvelle alliance sera basée sur un pardon inconditionnel de Yahvé.
On va laisser nos auditeurs avec cette belle parole et ce rappel de l'immense miséricorde de Dieu. Anne Garda, merci de nous avoir parlé du prophète Jérémie. En cette année du jubilé de l'espérance, on peut qu'inviter nos auditeurs à aller un peu creuser ce livre prophétique de l'Ancien Testament.
Oui, merci beaucoup Hélène et j'encourage tous les auditeurs à lire ces différents passages du livre et à lire le livre si le cœur leur en dit.
C'était Pèlerin d'Espérance, une coproduction des radios chrétiennes associées.